France Inter. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. C'est une petite boule de chaleur planquée au fond du ventre et cette impression qu'elle ne partira jamais, mais qu'elle peut remonter le long du corps, venir se coincer au fond de la gorge, assécher la bouche, coller à langue au palais, nous empêcher de parler. Parfois, la petite boule de chaleur reste planquée, envoie juste quelques rayons d'adrénaline, une façon de dire « c'est à toi de jouer, là, maintenant ». Et les mots sortent, les émotions avec. Je n'ai jamais expérimenté une scène de théâtre en dehors des pestacles de mon enfance, mais la prise de parole publique provoque toujours la petite boule de chaleur et c'est assez galvanisant. Quel plaisir ressent-on à monter sur scène, à s'exposer? Et vous, avez-vous déjà vécu cette sensation? On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France, vos messages sur la page Facebook ou sur WhatsApp. Nous sommes le vendredi 4 juillet, vous écoutez France Inter, grand bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter, grand bien vous fasse, Eva Rock.
Vous avez dédié votre vie au théâtre, Michel Bouquet ?
Tout naturellement, parce que c'est un plaisir. Alors, c'est tout naturellement, je me suis livré au plaisir de jouer. Ce plaisir de jouer est un plaisir très sérieux, n'est-ce pas ? C'est un plaisir, ça devient un plaisir, mais c'est très longtemps quelque chose de contraire. C'est un chemin très difficile à parcourir.
Mais alors pourquoi on le fait? Pour calmer des angoisses?
Moi, je le fais pour l'admiration de l'auteur. Les grands auteurs classiques, c'est-à-dire c'est Beckett, c'est Ionesco, c'est Pinter, c'est Shakespeare, c'est Molière avant tout, Molière par-dessus tout. Il y a vraiment une exploration du monde qui est complète.
La voix de Michel Bouquet au micro d'Augustin Trapenard. Ce matin, il est question du plaisir d'être sur scène et trois invités sont avec nous. Bonjour Clara Edouin.
Bonjour.
Comédienne et metteuse en scène, vous êtes à Avignon justement, on entend les cigales derrière vous, et c'est des vraies cigales. Du 8 au 20 juillet, vous présentez Prélude de Pan de Jean Giono, un spectacle en déambulation. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit dans un instant. Et en studio avec nous, Julien Gaspard Olivieri. Bonjour Julien.
Bonjour.
Vous êtes comédien, scénariste, metteur en scène et réalisateur. Vous avez co-signé, réalisé et joué dans la série Ceux qui rougissent, un de mes coups de cœur de l'année. C'est une série qui est toujours disponible sur Arte. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Vincent Delay. Bonjour Vincent.
Bonjour Eva.
Auteur, compositeur, interprète, photographe, réalisateur, j'arrête là. Votre dernier album, La Fresque, est une somme de bonheur. On va aussi en parler pendant cette émission. Vincent Delerme et Julien Gaspard-Olivieri, je voudrais vous proposer une petite expérience sensorielle, si vous l'acceptez. Julien, est-ce que vous pourriez me décrire ce que vous ressentez quand vous entrez sur scène, mais en utilisant uniquement un de vos sens, et on va dire l'ouïe, par exemple. Qu'est-ce que vous entendez ?
J'entends souvent plus mon cœur battre que n'importe quoi d'autre. Et la sensation que ce cœur va potentiellement exploser, s'arrêter, ne pas continuer. Et c'est toujours un des endroits de tapage qui nous ramène au présent, à la vie. Et donc c'est une forme de cadeau de la vie, à la fin un poison aussi. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fous là?
Et à chaque fois que vous montez sur scène, vous avez cette impression-là?
Bah, tout le temps, parce que sur scène, c'est l'endroit de maintenant, quoi. C'est pas redimable, les choses sont maintenant, quoi. Donc, c'est qu'est-ce que je suis maintenant? Qu'est-ce que je dois faire de moi maintenant?
Ouais.
Et est-ce que je retire tout de moi ou est-ce que je rentre dans autre chose de moi? Avec moi. Enfin bref, c'est tout un discours sur où suis-je en fait.
Où suis-je?
La question, c'est où suis-je?
Question existentielle, Vincent Delerme, si on fait la même expérience, mais si vous utilisez que votre vue, quand vous entrez sur scène, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voyez?
Déjà, souvent, genre, je ne mets pas mes lunettes pour faire de la scène et je suis vraiment très très miro, hein, donc ça devient très flou, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Après, souvent, on se raccroche aussi à des regards de gens de l'équipe. J'ai souvent fait aussi des seuls en scène, donc on regarde si tout le monde est sur les côtés. Je regarde beaucoup les fois. Il y a différentes configurations de début de spectacle, mais par exemple, si je suis déjà assis au piano, c'est beaucoup vérifier que le piano, le micro chant est aligné sur telle note du clavier pour, ouais, des choses d'angle un peu comme ça.
Ah oui, c'est vraiment à ce détail-là. Je sais que vous avez un sens du cadrage, moi, qui m'épate. On le voit dans vos documentaires notamment. C'est cette vision-là de ce micro avec cette note, c'est par cadrage dans votre tête ou c'est par superstition ou c'est parce que c'est aussi millimétré que ça quand vous arrivez sur scène.
C'est une question d'angle en fait, parce que quand on est au piano, souvent, d'ailleurs, la plupart des temps, les techniciens vont placer un piano pour que le public voit le clavier, et donc ce qui ferait qu'on joue de dos.
Ouais.
Donc après, on peut jouer aussi complètement de profil. Jeanne Chéral, par exemple, elle met son piano totalement, complètement à angle droit, et moi, je l'ouvre pour être vissé un peu vers la salle, ouais. Et je me visse encore plus pour être un peu comme face aux jambes, alors qu'on est quand même un peu plutôt de profil. Donc en fait, c'est un truc de... Voilà, d'angle assez précis, et ça arrive qu'on commence le concert et qu'on se dise « Ah, ça a été... Quelqu'un a dû toucher le truc, ou moi... »
C'est bancal, ouais.
Et on n'est pas exactement, tourné vers la salle entièrement.
Clara Edouin, j'ai proposé cette expérience à Julien et à Vincent parce que je suis convaincue que l'expérience théâtrale, pour celles et ceux qui sont sur scène, mais aussi pour ceux et celles qui sont dans le public, est une expérience sensorielle. Vos mises en scène, me semble-t-il, le prouvent. Est-ce que vous pourriez nous décrire une de vos représentations? Parce que c'est quand même quelque chose de très particulier.
Alors, du point de vue de l'actrice ou du point de vue de la metteuse en scène?
De la metteuse en scène,
Parce qu'il m'arrive aussi de jouer dans mes spectacles. Et effectivement, en écoutant Vincent et Julien, je me disais, ah oui, c'est vrai que c'est très différent, puisque ces 10-15 dernières années, je n'ai joué et monté des spectacles que dehors. Et soit dehors en ville, et donc en jouant avec des bâtiments, l'architecture de ces bâtiments, soit dehors à la campagne, dans des milieux vivants, dans des paysages. Et là, du coup, les premières choses qu'on voit quand on arrive sur le plateau, qui n'est pas un plateau, mais qui est un lieu, en fait, qu'on vient investir avec des spectateurs, des spectatrices et l'équipe, on voit un champ, on voit une forêt au loin, on voit le soleil qui se lève derrière ces arbres au lointain, on voit les herbes hautes qu'on est en train de fouler, et on voit, quand on est du coup dans le public, on voit au loin les acteurs qui arrivent, par exemple dans Que ma joie demeure, qui arrivent très 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 loin, tout au bout d'un champ, et qui apparaissent un peu comme par magie, comme s'ils sortaient de la forêt. Et qui s'approche de nous.
Et alors, vous dites que c'est un spectacle en déambulation, parce que vous changez au fur et à mesure de scène dans la nature ou dans la ville, et les spectateurs et spectatrices viennent avec prennent le pas des comédiens et comédiennes.
Oui, absolument. Disons que, par exemple, dans un spectacle comme Les Trois Mousquetaires, la série, qui est donc un feuilleton de 6 spectacles qu'on a monté avec Jader Bulot, on passe d'une cour à un parking, à une autre cour intérieure, à finalement une sorte de à la rue, par exemple.
Ouais.
Et là, avec les spectacles, avec les adaptations de Giono, que ça soit Que ma joie demeure ou Prélude de Pan qu'on présente ce mois de juillet à Avignon, on passe plutôt d'une clairière à un champ en friche, à un petit bout de sous-bois.
Mais Clara
et
Edouin,
on se déplace avec les gens.
Clara Edouin, est-ce que ça veut dire qu'en fait il n'y a pas de scène dans votre théâtre, ou en tout cas que vous réinventez la scène sous une autre forme?
Je dirais qu'en effet, il n'y a pas de scène, parce que il n'y a même pas de séparation en réalité entre les spectateurs, les spectatrices et les artistes, puisqu'on partage tous le même lieu. En fait, on voyage ensemble dans des lieux dans lesquels on va jouer. Mais comme des enfants, d'une certaine manière, joueraient dans la forêt.
Oui, dans un pré ou dans une forêt, oui, tout à fait.
Voilà, ouais. Il se trouve que des gens nous regardent et sont un peu figurants de l'histoire. Mais il n'y a pas cette espèce de séparation. Aussi parce que les dispositifs dans lesquels on place les spectateurs, c'est souvent des bifrontaux, des trifrontaux, des quadrifrontaux, etc. On est parfois en cercle. Parfois, c'est du frontal, mais même dans la nature, quand c'est du frontal...
C'est pas pareil,
ouais. Au fond, on est tous ensemble dans cette clairière ou dans ce champ.
On va en reparler de ce rapport que vous instaurez avec le public, qui a un rapport un peu particulier. Vincent Delarme, moi j'ai l'impression que par exemple ce studio est une scène, parce que dès qu'il y a une prise de parole publique, dès qu'il y a un public, j'ai l'impression qu'on peut parler de scène. Vous, elle débute où et elle s'arrête où, cette scène ?
Il y a quand même quelque chose qui... Enfin, je ne sais pas comment dire. La scène est très liée quand même au fait de l'avoir fantasmée longtemps, déjà dans sa vie, mais même en préparation, c'est-à-dire que... Moi, c'est vrai que je suis pas très fan de l'idée d'investir un plateau de théâtre juste en se disant bon bah je vais faire une lecture avec un petit pupitre et puis on va prendre un violoncelliste ou une violoncelliste à côté. Ce qui se fait beaucoup parce que c'est souvent pratique et que ça permet de pas payer de répétition trop, que les gens viennent parce que pour peu que ce soit un comédien un peu connu qui fasse la lecture et tout ça. Mais pour moi, c'est autre chose. Faire un spectacle, c'est vraiment le voir venir de loin.
Il pensait pendant longtemps.
Ouais, il pensait presque tout le temps en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que d'une tournée sur l'autre, en fait, on accumule aussi des idées, mais même des objets. C'est un petit vélo permanent. Et à un moment donné, voilà, on y est enfin. Mais donc oui, donc pour moi, c'est assez différent quand même d'un studio, par exemple.
Julien Gaspard Olivieri, dans votre série Ceux qui rougissent, on suit un groupe de 10 lycéens qui prend un cours de théâtre. Vous êtes leur nouveau professeur dans la série. Les répétitions, elles se font dans un gymnase. Cet espace, il fait office de scène pour vous ou c'est un lieu qu'ils doivent apprendre à investir, dans lequel ils doivent apprendre à bouger et à exister.
À partir du moment en fait où j'ai choisi un lieu comme ça, c'est surtout pour inviter le corps à se questionner dans l'immensité d'un espace immense comme ça qui est en fait à des limites, mais qui reste quand même très vide. Et il devient scène à partir du moment où on s'adresse à quelqu'un dans une situation qui est fictionnée, qui est rêvée. Mais pour moi, le but même de l'actrice, de l'acteur, c'est toujours d'être au sommet de soi-même en termes de corps et de se dire, qu'est-ce que je suis, moi, à l'intérieur de ce paysage. Donc ça rejoint aussi le travail de Clara, par exemple. Mais c'est vrai que de se mettre face à l'immensité, c'est chercher en soi l'intime, le tout petit, qui nous fait surgir comme quelque chose d'extrêmement puissant. Je pense que ce que je cherche, moi, souvent, en tout cas dans ces lieux-là, c'est qu'est-ce que c'est que cette puissance de l'image et comment cette puissance de l'image devient une puissance de l'intime et du détail.
Vincent Delerme, j'ai oublié de vous poser une question, mais est-ce que c'est un plaisir d'être sur scène ? Parce qu'on a appelé l'émission comme ça.
Ouais.
Mais est-ce que vous, par exemple, vous montez sur scène et vous dites ah, c'est le pied, la scène ?
Non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un plaisir immense d'avoir à faire un spectacle et de l'avoir fait, de le préparer. Et de temps en temps, comme je fais de la chanson, il y a le principe des rappels, donc c'est un moment où on lâche un peu la bride et on peut se permettre de se dire là, c'était quand même un beau théâtre ce soir et tout ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est un peu une image d'Épinal. Souvent, les gens qui vous disent avant d'aller sur scène, vas-y, éclate-toi bien, prends du plaisir.
Ouais.
Pour moi, c'est vraiment une phrase de gens qui ne font pas vraiment de la scène parce que. En tout cas, aussi, déjà, on a une responsabilité, c'est qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont confiance en vous, qui ont payé un billet et qui veulent passer une bonne soirée. Donc, rien que pour ça, on ne peut pas se dire, tiens, je suis à l'Aqua Boulevard et c'est cool, je m'éclate et puis c'est sympa, il y a des petits sandwichs. Non, il y a quand même ça.
Une responsabilité.
Et après, le plaisir, c'est justement de sentir que au fur et à mesure de la soirée, tout le monde s'y retrouve et aussi que la salle, évidemment, en chanson, on a ce repère des applaudissements très réguliers qui est quelque chose qui permet quand même de juger un peu l'état des gens face à nous et de voir. Il faut que l'enjeu, c'est que la salle fasse un bloc à la fin. Quand bien même souvent, il y a des salles où c'est assez disparate parce qu'il peut y avoir 50 personnes d'un comité d'entreprise qui applaudissent pas trop. Il y a les abonnés qui sont placés un peu devant, les gens qui connaissent mieux qui sont un peu derrière. Il faut qu'à la fin, tout le monde soit très ensemble. Donc ça, c'est vraiment, c'est beaucoup ça en fait, le plaisir final. Ouais.
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Alors, avant la chanson qui vient, j'aurais besoin de savoir si dans la salle, il y a des gens qui ont leur BAFA. Je vais me rendre compte. Si vous voulez bien, bougez-vous. Oui. Ah, ah. D'accord, par là. Alors le BAFA, je précise pour les gens qui ne sauraient pas, c'est le diplôme qui permet de diriger des centres aérés, des colonies de vacances, et voilà. Donc moi, ça m'intéresse de savoir quel est mon public. Voilà. Voilà, on peut éteindre. Celles qui ont vu Bagdad Café, Jean-Michel Jarre, stroboscopé. Celle qui criait, si tu savais, de Bretalois où on se la met. Celle qui ont porté.
Extrait de votre spectacle, Vincent Delerme. Est-ce que vous vous souvenez quand c'était la date et le lieu, d'après vous
Ouais, le son, c'est, ce serait La Cigale, je pense, quand même.
Et non, c'est Bataclan. Non,
Bataclan.
Ouais, 2009.
C'est sûr que c'est, ça, c'est marrant, parce que des fois, on refait des paroles pour des chansons aussi, c'est vraiment un truc de...
Oui, je suis très déçue, d'ailleurs, puisque moi, je suis une fille de 73, et que vous dites 76.
Tous ces efforts pour vous décevoir.
Pour s'en rendre compte. Avec vous, et puis avec le comédien et réalisateur Julien Gaspard Olivieri, et puis la metteuse en scène Clara Edouin, nous évoquons depuis 10 heures le plaisir, ou pas d'ailleurs, d'être sur scène. Vincent Delame, est-ce que vous vous souvenez régulièrement des concerts où en fait votre cerveau zappe? Parce que vous en faites tellement en même temps que...
En fait, on en parle souvent avec des gens qui font de la scène, c'est qu'on se souvient très bien des loges, des chambres d'hôtel, du bar... dans lequel on parle avec les gens après le spectacle, mais le concert en lui-même, c'est sûr qu'on a peu de mémoire de ça. On a la mémoire du spectacle précédent, parce que c'est comme si on avait des points de passage qu'on compare, on se dit « Ah oui, le concert d'avant, ce titre-là, ça c'était mieux réussi, ça avait mieux réagi, ou je... voilà. » Mais sinon, non, c'est vrai qu'on a peu de souvenirs du spectacle lui-même, on est quand même très très concentré pour... Je sais pas, c'est assez étonnant ce truc-là, parce que c'est quand même une sorte d'endroit magique, la scène, et puis moi j'y suis vraiment venu parce que j'avais adoré cette magie-là en étant spectateur, je voyais des gens s'approcher dans la lumière, et j'avais lu les histoires de Barbara qui compte ses pas pour aller au tabouret du piano, et j'ai vraiment voulu faire ça pour ça, mais en fait finalement, même dans ce que je raconte là sur Barbara, c'est beaucoup la loge...
La répétition, en fait.
La voiture qu'on reprend après le concert pour aller dans la ville suivante, et toute cette vie-là qui est très très intense. Évidemment, le point culminant c'est censé être le spectacle lui-même, mais finalement c'est pas que c'est un prétexte, mais que tout ce qui est autour en tout cas reste très vivace après.
Ce qu'on sait pas forcément, c'est que vous avez débuté par le théâtre quand vous étiez étudiant à Rouen.
Oui.
C'était quoi? C'était une troupe de copains qui se retrouvaient pour
c'était
jouer,
la réplique, la troupe de la fac de lettres de Rouen, et en fait ce qui était marrant c'est que c'était que des étudiants qui étaient censés faire des études d'histoire géo ou de lettres, et qui faisaient du théâtre un peu par plaisir. Mais il y a une génération qui était un peu spontanée et de gens qui étaient assez bons au théâtre. Et ils ont tous fait après des écoles de théâtre et c'est leur métier aujourd'hui.
Vous écriviez des sketchs, c'est ça?
Des pièces que j'ai jouées à cette époque-là.
Vous avez incarné une prof gothique fascinée par Sade.
On jouait dans l'amphi de la fac, et donc on pouvait bénéficier de la table du prof avec le micro, la sonorisation, et c'était un pied d'être à la place des profs et de faire un sketch pour se moquer de ça. Mais après, c'est sûr que le théâtre, ça vous apprend aussi... beaucoup à jouer sur le truc qu'on entendait là avant chanson, avec les silences, à faire qu'il y a des moments où il se passe rien, ce qui est quelque chose qui ne pose aucun problème dans une pièce de théâtre, mais en chanson on est censé meubler un peu l'espace tout le temps et combler les trous, donc quand on joue sur ces trucs un peu à contre-temps, ça crée un truc et en tout cas à chaque fois que je suis là-dedans, forcément, je repense à des moments avec cette troupe-là quand j'étais étudiant.
Il y a Catherine qui nous a écrit, qui nous dit « Le théâtre, c'est le plaisir de jouer ensemble, ce sont les fous rires en répétition, c'est l'amitié. » Et la cerise sur le gâteau, c'est le public, évidemment. Julien Olivier, est-ce que vous souvenez-vous de vos premiers pas et du plaisir que vous avez pu ressentir sur scène? Vous étiez très jeune?
Ouais, très jeune, mais c'est aussi un rapport à la... En fait, ce qui est fort, c'est de se dire on partage quelque chose qu'on croit qu'on vit tout seul, en fait, puisqu'on est avec notre réplique, notre travail, notre fantasme aussi de la scène et tout. Et en fait, c'est souvent par les rires, mais c'est aussi par le silence qu'on retient qu'il y a des gens face de nous. Et quand on sent une salle communier avec cet espace-là, quand on sent qu'en fait, il n'y a plus que la scène, il y a aussi la salle qui fait scène, quand ce partage-là intervient, en fait, on se dit, tiens, tout d'un coup, l'humanité s'entend, quoi. Il y a un écho. Il y a quelque chose qui est assez rare en fait dans la vie. Il y a les concerts qui me font ça, moi, beaucoup, beaucoup. Les concerts qui nous mettent tous au diapason de quelque chose de commun. Et puis il y a le temps du théâtre où on respire ensemble malgré tout. Et il n'y a pas tellement je joue un rôle, nous jouons ensemble à se faire croire. Donc on convoque l'imaginaire.
C'est intéressant ce que vous racontez sur la respiration, sur le fait de respirer ensemble. Moi j'ai l'impression que dans votre théâtre, dans votre travail en tout cas théâtral, le corps a une importance primordiale. C'est le cas ?
Moi, je ne pense qu'au corps quand je travaille avec des personnes ou des interprètes. Ce qui est dit, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est le non-dit. Ce qu'on peut pas dire, ce qu'on garde en soi, quoi. Ouais. C'est toutes ces choses qui restent en nous qu'on peut pas vraiment... dire, quoi. Ça me bouleverse beaucoup parce que c'est aussi du champ lexical, de l'interdit, du silence, de la, tout ce qu'on voudrait vous pas montrer se voit à des endroits qui nous échappent.
On le voit dans la série, dans Ceux qui rougissent, là, vous incarnez un prof qui les bouscule, qui bouscule ses étudiants, mais qui les bouscule, je dirais, à la fois par la pensée, par les mots, mais aussi physiquement. Je me souviens de cette scène où vous les faites aboyer, par exemple. Mmh. Ça va très très loin. Vous pensez qu'il faut qu'il y ait un petit rapport physique comme ça qui s'établissent ?
Bah, je pense que la chimie, le cerveau, c'est quelque chose qui se rappelle à l'enfance quand même, et que l'enfance, c'est pas les mots. L'enfance, ouais, c'est les cris, l'enfance, c'est la joie, c'est les grandes contrariétés.
Le mouvement aussi.
Le mouvement, ouais, la course, c'est animal aussi, il y a quelque chose d'assez animal dans nos parcours en fait. C'est quelque chose où on vient chercher la sensation pour en parler peut-être après, mais je crois que nos pulsions en fait, c'est ce qui nous fait aussi, c'est aussi qui on est, nos pulsions. Donc il y a le texte, moi je suis un grand, j'adore les auteurs, mais j'aime les mettre au service de pulsions, de désirs, de choses incontrôlables. On est au théâtre pour voir ce qu'on ne voit pas dans la vie aussi. Ouais. On fait un zoom sur l'extraordinaire. Donc le corps, pour moi, c'est l'endroit de la détonation. Quand je parle de le cœur bat dans l'oreille, bah, c'est pas autre chose que du son, ouais, et du corps. Et mon corps s'exprime à l'intérieur, quoi.
On va donner la parole dans un instant à Béatrice qui vient de nous appeler au standard. Mais Clara Edouin, juste un mot sur le côté physique de vos comédiens et comédiennes, enfin, et du vôtre aussi, puisque vous jouez de temps en temps dans vos pièces. C'est extrêmement compliqué pour eux de trouver une place avec leur corps dans ces espaces qui sont immenses.
Oui, en tout cas, ça demande, l'extérieur demande une dépense énergétique extraordinaire. Et je pense que ça fait partie aussi du plaisir qu'on a à jouer dehors. C'est que tout d'un coup, le corps, comme le disait Julien, peut se déployer de mille et une façons, et il doit se déployer de façon presque plus grande, plus vaste que sur un plateau.
Et oui.
Puisque en effet, on se retrouve parfois, en tout cas là avec Giono, dans des espaces qui sont trois fois, quatre fois plus grands qu'un immense plateau. On est tout seul au milieu d'une immense prairie et se pose la question de comment rester le point chaud du plateau quand tout vit autour, quand tout bruisse autour, et que l'attention du spectateur ou de la spectatrice peut être appelée par un oiseau qui vole, par le vent dans les branches des arbres, par mille autre chose vivante aussi, tout aussi vibrante aussi, mais comment faire pour exister du coup avec elle, parmi elle, sans être en conflit, ouais, avec ses présences vivantes, mais en harmonie avec elle.
Ouais, on a l'impression quand on vous écoute qu'il y a plusieurs focales en fait, même pour la personne qui est dans le public, et qu'on fait le point sur différents aspects tout au long du spectacle. Je voudrais qu'on donne la parole donc à Béatrice. Bonjour Béatrice.
Bonjour.
Merci d'avoir appelé au Standard de France Inter. J'ai cru comprendre que vous faisiez du théâtre depuis des années.
Ah oui.
Est-ce que je peux vous demander votre âge, si c'est pas indiscret?
Bah écoutez, non, c'est pas indiscret de toute façon. J'ai 70 ans en septembre, voyez-vous.
Et vous avez commencé le théâtre à quel âge?
Alors, tout à fait fortuitement, à la retraite. Donc ça fait 8 ans que
d'accord,
je fais du théâtre. Ça a été une proposition pour faire du piano dans une pièce de théâtre, puisque bon, voilà, j'avais fait du piano dans le temps et que je reprenais un peu ça. Et j'ai continué un petit peu comme ça, plutôt musique dans le cadre d'une pièce. Et puis je fais maintenant dans ma ville plus de théâtre, mais aussi de musique. Puisque nous commençons, là on est presque au summum, nous, de l'émotion, puisque nous commençons le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare demain soir dans le Finistère.
Ouais.
Pour 9 soirées, puisque cette troupe-là procède comme cela. Et donc, je voulais vraiment témoigner du plaisir que ça a apporté pour moi. J'avais perdu mon mari, vous voyez, 2 ans avant ma retraite, et j'ai beaucoup hésité avant de commencer. Et là, nous travaillons avec un metteur en scène pro, extraordinaire, et à travers notamment cette pièce-là, mais toutes les autres, c'est un progrès constant, c'est un plaisir constant pour moi, chaque répétition. Je voyais il y a 2 jours, nous répétions, et tous mes collègues, tous les copains acteurs avaient aussi le sourire aux lèvres en regardant les autres.
Et oui.
Ça fait 10 fois qu'on joue ces temps-ci. mais ce n'est pas que ça, ce n'est pas que le sourire et le bonheur total de jouer, c'est cette toute cette harmonie entre nous. C'est voir le metteur en scène construire aussi cette pièce au fur et à mesure des répétitions. Et on dirait qu'il brode en quelque sorte, qu'il fait son puzzle là. Et hop, les choses évoluent et changent de direction.
C'est formidable. Mais ça m'a apporté énormément. On l'entend à votre voix et votre enthousiasme. Ouais. Mais merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis, on vous souhaite de bonnes représentations, de très belles représentations, avec un public qui ne manquera pas de vous applaudir. J'ai l'impression que vous avez la pêche pour tout le monde. Merci beaucoup, Béatrice, de nous avoir appelé au standard. Évidemment, vous pouvez continuer au 01 45 24 7000. Juste une petite question, Vincent Delerme, avant qu'on vous entende avec un extrait de votre dernier album. Comment vous, corporellement, vous vous sentez sur scène? Est-ce que c'est si évident que ça, ou est-ce que vous planquez un peu derrière le piano?
Alors en fait, déjà, les premières fois qu'on va sur un plateau, on découvre un peu une autre version de soi. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on réagit, évidemment qu'on a répété avant, mais de se retrouver vraiment en public, on prend des, je sais pas si des postures, mais une manière de se positionner qui est un peu un truc nouveau. Et du coup, on est plus ou moins à l'aise avec ça. En tout cas, moi, j'ai bien aimé dès les premières fois, même des clubs théâtre de lycée. Je me dis, en fait, j'aime bien cette zone, c'est... Je voyais qu'il y avait d'autres gens autour de moi, des fois, qui étaient un peu... Ils se sentaient obligés de dire tout de suite le texte et tout. Moi, j'aimais bien attendre. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est un peu une chance, parce que c'est un peu comme savoir faire bouger ses oreilles. C'est pas vraiment un truc qui se travaille ou pas. Enfin, je veux dire, c'est un état un peu chanceux. Et puis après, c'est sûr que tout, en tout cas, sur le corps, sur scène, le rapport aux autres, il en était beaucoup question, que ce soit en répétition, la connexion à la salle ou aux gens avec qui on est sur scène, c'est quand même très très important. Donc en théâtre notamment, je trouve les gens avec qui on partage évidemment le plaisir de répéter et ce truc joyeux, mais aussi la peur. Notamment avant une première, ne pas savoir du tout ce que ça va donner, si ça vaut la peine, si ça tient la route, si les gens vont suivre. C'est quelque chose qui vous unit très fort avec les personnes autour de vous qui sont dans le même doute. Et c'est un peu des trucs pour toujours, en fait. Après, c'est des liens qu'on garde pour toujours.
Grand bien vous fasse. Eva Rock. Sur France Inter.
On va faire du théâtre dehors. Pour cette raison, il n'y a ni gradin, quoi que ce soit qui pourrait ressembler à des murs de théâtre. C'est vous qui allez fabriquer les espaces de jeu avec nous. Et vous verrez, on va vous aider pour ça. Il y aura souvent des cordes au sol derrière lesquelles vous allez pouvoir vous installer. Il y aura aussi des trépieds et des moquettes qui seront mises à disposition. Sur le premier tableau, tout est installé. Moquettes au premier rang, trépieds sur les deuxième, troisième rangs. Voilà, c'est comme ça qu'on va fabriquer les choses ensemble. N'hésitez pas tout au long de la journée à vous déplacer légèrement, à passer derrière et à être debout, ou à passer devant et à vous asseoir. Et vous serez, vous, les murs du théâtre que l'on va faire toute la journée.
Vous venez d'entendre quelques recommandations pour le public avant le début d'une représentation d'une de vos pièces, Clara Edouin. Nous évoquons le plaisir d'être sur scène avec vous, avec Julien Gaspard Olivieri et Vincent Delerme, parce que la scène, c'est aussi un public, mais un jeu de regard. Clara Edouin, moi j'ai l'impression, enfin, en tout cas je me suis demandé si les comédiens et comédiennes ne devenaient pas aussi spectateurs de la représentation, c'est-à-dire s'enthousiasmant pour le lever d'un soleil ou un animal qui passe par inadvertance dans le champ.
Oui, c'est vrai que de toute façon, il y a une sorte de... Les rôles peuvent permuter un petit peu les expériences qu'on fait. Et en fait, ce qui se passe, j'ai l'impression, enfin, ce qu'on essaye, nous, de préparer, c'est cette rencontre entre les spectateurs, les spectatrices et nous et un lieu. Et à l'intérieur ensuite de ce lieu, on va partager tous un peu les mêmes émotions. Et en effet, ça nous est arrivé dans le prélude de Pan, du côté de Gap, de jouer une scène. Et en fait, derrière nous, passe un sanglier.
Ah ouais.
Et tout d'un coup, tout le public se lève. Le sanglier est 10 fois plus intéressant que les deux
que
actrices sont en train de raconter, que Giono. Et en fait, mais les actrices elles-mêmes se lèvent. Et puis, il y a ce moment suspendu qu'on partage tous où il y a ce sanglier dans la prairie juste derrière nous à 30 mètres qui est en train de faire sa vie et de courir dans la prairie. Enfin, et effectivement, à ce moment-là, ce qui est en train de se passer dehors suspend l'attention de tout le monde.
Ouais. Il y a un rapport au vivant, évidemment, qui s'établit. Je me suis demandé si dans le phénomène de déambulation que vous menez, puisque les spectateurs et spectatrices suivent les comédiens d'un site à un autre, cette histoire de déambulation, est-ce que ça crée pas un lien à part entre vos deux mondes, quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre de la réflexion? C'est-à-dire que, vous savez, souvent, on dit que quand on marche, bon, c'est la maïeutique chez les Grecs, mais quand on marche, notre pensée aussi évolue. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là quand vous passez d'une scène à l'autre ?
Alors oui, absolument, mais surtout chez Giono, parce qu'en fait c'est pas du tout les mêmes temps de pause. Par exemple, quand on suit les Trois Mousquetaires de Dumas et qu'on se déplace entre deux épisodes, où j'ai l'impression que le public, un peu comme nous d'ailleurs, il est haletant parce que Dumas il crée cette espèce de roman d'action, ce page turner, et on est tout le temps là avec l'avidité de l'épisode qui va suivre. Alors que chez Giono, de fait, ça invite beaucoup plus à la contemplation, et ces moments de marche, là d'ailleurs on parle d'un tableau à l'autre et non pas d'un épisode à l'autre, donc ça indique bien aussi une autre relation à ce qu'on regarde. Et entre les tableaux, en effet, il y a ce vagabondage de la pensée qui est permis, et qui est permis aussi physiquement par la marche. Oui. Mais en fait, ça me donne l'occasion aussi de rebondir sur ce que disait Julien sur le corps tout à l'heure, parce que ce que ça active surtout, en fait, le fait de se déplacer, c'est que ça active aussi le corps des spectateurs. Et ça fait de ces expériences-là des expériences très différentes de celles qu'on peut faire en salle, où on est assis pendant 2 heures et où on regarde d'autres s'activer sur le plateau. Là, d'une certaine manière, acteurs et spectateurs partagent une expérience physique. On va partager la chaleur, on va partager la sueur, on va partager l'épreuve aussi de d'une journée d'été tous ensemble, la fatigue, etc. Et notre attention va en être modifiée.
Oui, j'ai oublié de préciser que ça peut durer 4 heures, hein, entre 4 et 6 heures, votre déambulation, que vous faites beaucoup de kilomètres à pied. Mais alors, vous avez fait réagir Vincent, mais j'en étais sûre, Vincent, parce que vous avez cette communion avec le public. Il y a un truc physique aussi qui se joue, même à l'intérieur d'une salle.
En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce qui est bien dans l'émission, c'est que souvent, on parle de ça, le rapport aux gens, au public, mais c'est un peu abstrait. C'est-à-dire que... Et là, du coup, c'est très concret tout ce qui se dit, et ce qu'on entendait dans l'extrait que vous avez fait diffuser aussi. C'est-à-dire de prendre la parole comme ça avant le spectacle à l'extérieur, d'expliquer aux gens comment ça va se passer. Et la nature des applaudissements qu'on entendait derrière, c'est peu de gens, c'est peut-être une quarantaine ou 50 personnes. Mais il y a quand même ce truc
120 personnes.
120, excusez-moi. 124 même. Et ça, c'est super parce que c'est vraiment de prendre au sérieux le public. Et on sent en retour, il y a quand même ça, les gens, ils sont déjà prêts à partir. Quoi. Et ça compte vraiment aussi dans le... Dans le théâtre, ça arrive qu'il y ait des pièces qui soient jouées dans des grandes salles, mais on ne juge pas la qualité en fonction du nombre de payants et tout ça. Dans la musique, il y a un peu ce défaut-là maintenant. Il faut faire un Bercy ou deux Bercy.
Oui, il y a un côté faites, un peu, oui.
Moi, je fais 15 cigales, on me dit, mais pourquoi tu fais 15 cigales et pas un Bercy? Mais justement, parce qu'il y a ce plaisir qui est un peu théâtre de retrouver la loge et aussi d'avoir le sentiment que les gens, ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu concret, de pouvoir quand même imaginer la longueur de la file d'attente et que ça reste un peu humain comme ça. Ouais.
Juste une aparté, la Cigale, c'est une salle très importante pour vous. Vous allez y jouer, un nombre incalculable de fois pour la prochaine tournée. Vous avez un rapport particulier à cette salle quand même?
Ouais, déjà c'est une salle dont j'ai toujours entendu parler enfant, parce que mon arrière-grand-mère était ouvreuse quand c'était un cinéma. Donc mon grand-père me parlait de la Cigale, du cirque Medrano qui était en face, parce que les gens qui bossaient à la Cigale avaient des tickets pour aller à Medrano et les gens de Medrano, donc il y avait ce truc-là. Et après, quand j'ai pu chanter, j'ai fait des premières parties de Fersen là-bas et j'ai adoré direct. Et surtout, du coup, c'était une histoire qui se continuait. Mon grand-père, qui était toujours en vie, venait s'asseoir à l'endroit où il s'asseyait quand il attendait que sa mère ait fini son service d'ouvreuse de cinéma. Et puis, pour moi, c'est vraiment la meilleure salle parce qu'elle est... Elle contient 800, 1000 personnes. Et en même temps, l'impression qu'on a sur scène, c'est que c'est plutôt 120.
Vous les voyez? Vous les voyez, les gens, ou pas?
Oui, quand même. Ouais, on les voit.
Mais est-ce que vous cherchez leur regard? Ou
non,
il faut que vous soyez
trop.
Hyper concentré?
Encore une fois, moi, je vois très, très flou, mais...
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, vous n'avez pas vos lunettes.
Mais je ne mets pas de lentilles. Et ça me va comme ça. Mais oui, évidemment, le regard se règle un peu au fur et à mesure. On voit souvent... Adman de la Simone, il parle de ça des fois aussi. Il a fait des dessins où il montre ce qu'on voit sur scène, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde son portable, qui a donc le visage éclairé, ou alors juste le petit panneau de la sortie de secours. Enfin, on voit on s'accroche un peu à des détails comme ça, et puis évidemment au moment des rappels, quand les gens se lèvent et tout ça, là on peut vraiment regarder
les
gens.
Un peu se lâcher un peu. Julien Gaspard Olivieri, qu'est-ce que vous avez, vous, comme rapport avec le public quand vous êtes sur scène et que vous jouez une pièce, donc il y a un texte, est-ce que vous avez l'impression de dépendre de ce public quelque part? Je ne sais pas si le mot dépendre est exact, ou est-ce que vous vous sentez vulnérable face à ces gens?
Je pense qu'en j'ai l'impression que je me pose pas jamais vraiment ces questions-là,
d'accord.
Parce qu'en réalité, j'essaie d'arriver avec ma nécessité entière et de me dire voilà, moi je me suis employé à raconter cette histoire-là. Donc en fait, le but pour moi, c'est toujours de raconter une histoire. Donc quand on est face à un public, on a toujours envie de savoir comment il se gère, comment il accueille, comment on l'amène. Mais comme le théâtre, c'est une affaire d'écriture, c'est une affaire de langue, c'est un langage, c'est un pays. En fait, à partir de ce moment-là, il faut faire rentrer les gens dans une atmosphère, dans un monde. Et c'est souvent, moi je pense tout le temps comme metteur en scène à tiens, le public, combien de temps il va rentrer en communication avec ce qu'on est en train d'essayer de lui faire entendre, et c'est un partage en fait dès l'écriture. C'est pas tellement le plateau, c'est presque déjà trop tard. Ces questions là elles sont trop tard au plateau, il faut les concevoir. Quand Vincent disait que c'est quelque chose auquel on pense tout le temps, c'est vrai, c'est quelque chose qui nous habite, qui est tout le temps là. Il n'y a pas une seconde où potentiellement on se dit pas tiens, est-ce que ça pourrait... À quel moment, en fait, je propose au public l'aventure? Et je pense que le plus tôt, c'est le mieux. Mais j'ai un rapport plus à toujours me dire, est-ce qu'on les a avec nous ou contre? Ça peut être intéressant aussi. Et à partir de là, après, moi, mon confort à moi en tant qu'acteur et tout ça, c'est pas important.
C'est pas important, non. Je comprends. Vincent Delerme?
Non, la question du public, c'est super aussi qu'on l'évoque comme ça, parce qu'il y a cette idée quand même que dans l'absolu, on devrait faire un truc sans tenir compte des spectateurs, ne faire que ce qu'on a à faire et ne pas déjouer en fonction d'une réception et tout ça. Mais pour moi, c'est vraiment, ça va ensemble. Et c'est pas du tout quelque chose qui vous fait déjouer que de faire attention à comment c'est reçu, en fait.
Ouais.
Et ça, c'est souvent, en tout cas en musique, il y a souvent cette idée-là qu'il faut faire le truc que t'as en tête et puis tu t'en fous de comment ça va être appréhendé. Mais pour faire passer souvent des choses qui sont assez intimes, assez perso, il faut que les gens rentrent dans l'histoire, et donc il faut tenir compte de ça aussi.
D'où l'importance que vous préférez le mot spectacle au mot concert, voire pièce de théâtre, et on le comprend mieux en vous écoutant.
Spectacle, oui, parce que c'est un peu global, ça permet de... Il y a des moments où ça parle, des moments où on joue des chansons, des moments où il y a des vidéos, donc c'est vraiment cette idée un peu de cirque d'enfant, quoi. C'est-à-dire que ça s'éteint, et puis on ne sait pas ce qui va se passer, et ça c'est super de retrouver cet endroit-là.
C'est marrant que vous disiez ça, parce que je pense qu'il y a quand même toujours un rapport à l'enfance quand on parle de la scène et de ce plaisir qu'on a à être sur scène. C'est un peu les pestacles de notre enfance.
France Inter. Grand bien vous fasse, Eva Rock.
Moi, je veux être heureuse et être à l'aise financièrement.
Combien?
Et pas.
Tu veux gagner combien?
Direct, on parle en prix.
Allez, on s'y met, on voit ce qu'on peut faire.
À l'aise, je dirais que si j'ai 7000, je suis à l'aise.
7000 par an?
Par mois.
Moi, acteur. Hein.
Acteur?
Ouais, acteur direct.
Depuis toujours?
Oui, toujours. Non, pas depuis toujours.
Depuis quel âge?
12 ans.
12 ans?
Ouais. Parce que j'étais un garçon très très timide, très bloqué. Du coup, ma mère, elle m'a dit « Je vais te mettre au théâtre, comme ça, tu vas te débloquer un petit peu. » J'ai dit « Non, non, je veux pas. » Et voilà, c'est parti de là.
C'est un extrait de votre formidable série, Julien Gaspard Olivieri, Ceux qui rougissent. Qu'est-ce qui joue bien, ces jeunes qui sont sous votre commande, mais c'est pas exactement le mot, qui sont devant vous, qui sont avec vous. Ouais. C'est vraiment, je leur recommande encore 1000 fois. C'est toujours disponible sur Arte. Je voudrais vous lire quelques messages qu'on vient de recevoir. Il y en a pour tout le monde. Mais alors, Mélas nous dit par exemple, j'ai la chance de jouer avec des personnes en situation de grande précarité. Un metteur en scène professionnel nous encadre et grâce à lui, on a l'occasion de se produire au Festival d'Avignon. Et c'est un plaisir de partage, de nous voir évoluer comme une troupe, comme des comédiens, un rapprochement artistique, un cercle protecteur qui se frotte au public où le trac nous transporte. Gaëlle, qui nous écrit pour vous, Clara Edouin, qui nous dit qu'elle a vu le Giono l'an dernier, qu'elle a adoré cette journée dans la colline et qui vous remercie, et qui a aussi vu les Trois Mousquetaires qui étaient effectivement haletants dans le magnifique cadre du village de Velleron et qui vous remercie infiniment, Clara. Et puis Aurore, elle nous écrit pour vous, Vincent Delerme, elle nous dit qu'elle a mis en scène votre pièce en 2022. C'était sa première mise en scène. Elle nous dit que vous l'avez jouée 8 fois dans le Cotentin et que ça l'a lancée et qu'elle a depuis réalisé une deuxième mise en scène et qu'elle s'attaque à la troisième. Et les jours de représentation, je me décuple, dit-elle. Vous voyez de qui on parle ? ça vous revient même pas, non. En fait. Ben voilà, elle nous a écrit Aurore. Elle nous a envoyé un petit mot rien que pour vous.
C'est qui bien avec les pièces de théâtre, ça existe sans vous.
Ben
aussi,
ouais, ouais, c'est, mais c'est ça qui est chouette aussi. Mais ce que vous disiez, c'est qu'on oublie, en fait, parce qu'il faut toujours passer à autre chose. Est-ce que là, par exemple, vous savez ce que vous allez faire pour le spectacle de la tournée qui va débuter en octobre ? C'est déjà assez précis ou ça commence à mûrir voilà, tout doucement, c'est ça
On a commencé à faire des essais sur différentes toiles pour faire des projections. Enfin, ouais, c'est drôle, il y a un truc qui grimpe comme ça. Après, il y a toujours ce truc, ce rapport au piano qui est... Bon, c'est un peu technique, mais de tournée en tournée... Les pianos numériques, par exemple, sont censés s'améliorer et pouvoir remplacer les vrais pianos. Et en fait, à chaque fois, on dit « Ah non, mais Yamaha, ça, ils en ont fait un truc qui est incroyable. » Et puis, on va essayer, puis on se dit « Ah, non, ça vaut quand même pas un vrai piano. » Bon, c'est un peu cette zone-là, là, pour l'instant.
J'ai oublié de vous poser une question, Julien Olivieri, Gaspard Olivieri. Pourquoi ce titre, « Ceux qui rougissent » ? Parce que ça nous renvoie à nos propres rougissements de l'adolescence, souvent.
Oui, et puis c'est surtout un sentiment très intérieur. C'est interne, le rougissement, c'est souvent lié à quelque chose qui va avec le diaphragme, qu'on a au cœur, là, comme ça, au centre. Et puis
encore
qui vient...
le corps. Ouais,
mais c'est ce qu'on ne dit pas aussi, c'est ce qui nous fait rougir et dont on n'a pas les mots. Et j'ai trouvé ça très par rapport à comment je les voyais vivre devant moi et puis à quel point ils s'investissaient aussi dans ce travail sans l'assumer complètement. Ils devenaient acteurs presque devant nous et il y avait quelque chose de l'ordre du désir et donc du rougissement et puis de la honte aussi.
Mais oui, mais je me suis posé la question parce que, et vous travaillez souvent avec des jeunes publics, enfin en tout cas avec des ados. L'adolescence, c'est vraiment le moment où la question du corps, elle est extrêmement importante, c'est souvent très complexe. Est-ce que le théâtre, ça leur permet, et la façon dont vous les dirigez, ça leur permet aussi de régler un peu ces difficultés qu'on a à ce moment-là, vous le savez ou pas ?
Ça, je ne sais pas, puis je pense que c'est propre à chacun. C'est quelque chose de tellement intime, la part du corps. Donc, non, mais ce que je peux remarquer, c'est que des personnes qui étaient comme ça dans les coins pendant les auditions que j'ai faites pendant un an, un peu partout en France, à ce moment-là, je les voyais dans des coins pliés, les bras contre elles, enfin, dans des coins où elles voulaient presque être absentes. Et en fait, quand on leur donne la possibilité de se dire on va rater, on ne va pas forcément faire quelque chose qui est pour le résultat, déjà, on invite quelqu'un à potentiellement se dire, bon, bah, le regard des autres, c'est pas ce qui compte, à Dieu le jugement, et puis peut-être qu'alors à ce moment-là, tiens, d'un coup, mon bras a toute sa place. Et je pense que ce que j'ai vu souvent, c'est des gens qui acceptaient d'être regardés parce que tout le monde était en train de faire la même chose, mais aussi parce qu'à un moment donné, c'est humain, quoi. La peur du regard des autres, tout ça. Donc je dirais que j'ai vu des gens se métamorphoser, des gens qui avaient vraiment pas envie d'y aller, qui sont venus... donner à peu près tout quoi, de ce qu'ils étaient sans même l'avoir conscience. Quoi.
Ouais. J'aimerais qu'on finisse cette émission, comme chaque jour, avec vos coups de cœur, c'est-à-dire un contenu qui nous permet aussi de poursuivre la réflexion sur le thème de l'émission, à savoir ce plaisir ou pas d'être sur scène. Clara Aidouin, est-ce qu'on commence avec vous ? Est-ce que vous auriez quelque chose à nous recommander ?
Oui, je peux vous recommander un livre que j'ai lu très récemment et qui m'a été lui-même recommandé par quelqu'un avec qui je travaille depuis des années, qui s'appelle Romain de Bec de Lièvre. Et il m'a offert ce livre qui s'appelle Bonheur clandestin de Clarisse Lispector. Le titre l'indique, ça parle de rougissement personnel aussi. Pas forcément sur scène, mais ou sur les scènes que moi j'aime, à savoir les scènes du monde. Et ça parle beaucoup de l'enfance aussi. C'est un livre très émouvant.
On y revient toujours à cette enfance. Hein. Julien, Gaspard Olivieri et vous, est-ce que notre conversation vous a suscité une réflexion, enfin, une poursuite de réflexion.
Moi, j'aime beaucoup la poésie contemporaine et je pense à un auteur vietnamien-américain qui s'appelle Ho Chi Minh Vuong et qui a écrit un premier recueil de poésie qui s'appelle Ciel de nuit blessé par balle et qui l'a aussi.
Oh, c'est beau ce titre.
Magnifique et qui est très physique. Et c'est d'ailleurs une des écritures qui m'a beaucoup inspiré au moment d'écrire mon premier long métrage. Et pour moi, on entre quelque part dans une image. C'est très peu de mots, mais c'est tous les mots du monde à la fois. Enfin,
on mettra toutes les références d'ailleurs sur la page de l'émission via l'application Radio France. Et vous, Vincent Delerme ?
Je dirais ce qu'on évoquait un peu tout à l'heure, les mémoires interrompues de Barbara, qui sont... ça s'appelle « Il était un piano noir » à l'arrivée. Et c'est beaucoup aussi le détail de ce dont on parlait, de la vie de tournée, et aussi au début de savoir qu'on va auditionner à l'Écluse, le premier endroit où elle a chanté, faire tous les mercredis pendant 8 soirs de suite. Quand on commence, on est très précis sur ces trucs-là, et c'est assez touchant. de voir qu'à la fin de sa vie, elle se souvenait parfaitement qu'elle avait fait tous les mercredis, puis qu'après elle a pu faire tout chaque mois, et puis qu'elle était en double plateau avec telle personne, et que tout ça reste gravé très très fort.
Un immense merci à tous les trois pour tout ça, pour tous vos mots. Toutes les références de vos spectacles et de vos différents concerts sont à retrouver évidemment sur la page de l'émission via l'application Radio France. Un grand merci à toute l'équipe aussi, de la réalisation à la préparation de l'émission et en passant par la technique.
Grand bien vous fasse. Un podcast France Inter.